France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Notre humeur varie au cours d'une journée, d'un jour à l'autre, avec des hauts et des bas, mais certains passent d'une phase d'excitation intense, plus ou moins brève, à une période de profonde dépression. Autrefois appelée maniaco-dépression, le trouble bipolaire est aujourd'hui une maladie mentale que le grand public connaît grâce à des stars internationales comme la chanteuse et comédienne Selena Gomez ou grâce à la médiation d'un journaliste comme Nicolas Demorand qui a révélé souffrir de bipolarité sur l'antenne de France Inter le 26 mars dernier. Depuis cette annonce, que s'est-il passé pour lui et pour l'image que nous avons de cette pathologie? Nous verrons ce qu'est exactement la bipolarité, quelles sont ses origines, quelle est la part génétique, les symptômes, les conséquences sur le plan personnel, l'influence du mode de vie, en particulier du microbiote intestinal dans l'expression de la maladie, comment soigne-t-on la bipolarité, comment prévenir les épisodes maniaques et ou dépressifs. Élément de réponse avec le docteur Marc Masson et avec Nicolas Demorand lui-même. Toutes vos questions et vos témoignages sur la bipolarité au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France, où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
I just found that it was really freeing.
Ça a vraiment été une libération pour moi de savoir que je souffrais de bipolarité. Ça m'a vraiment rendue heureuse, car j'ai pu commencer à développer une relation avec moi-même. Et pour moi, c'est le plus important. Vous dites que vous vivez bien avec la bipolarité et que vous n'en souffrez plus tant que ça maintenant. Comment avez-vous appris à vivre aussi bien avec la maladie sans avoir à trop en souffrir? Je fais ce qui est nécessaire. Je vois un thérapeute, je me renseigne beaucoup sur le sujet, j'écris de la musique. J'essaye de transformer tout ce que je vis en quelque chose de beau, et je fais du mieux.
La chanteuse et comédienne Selena Gomez sur ABC News en 2022. Bonjour Nicolas Demorand.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Présentateur de l'émission la plus écoutée de France, la matinale d'Inter, vous publiez aux arènes Intérieur Nuit, où vous révélez votre maladie mentale, votre bipolarité. C'est le point commun avec Selena Gomez, pour ma part c'est d'être né le même jour qu'elle. Alors Nicolas Demorand, une phrase m'a frappé dans votre livre et qui raconte peut-être la motivation profonde de ce livre. C'est le jour où un pharmacien à qui vous tendez une liasse d'ordonnances vous dit « Tiens, je n'avais jamais imaginé ça de vous ». Elle est terrible cette phrase.
Oui, elle est terrible parce que, comment dire, la pharmacie est normalement un espace préservé. C'est pas un espace de commentaires des ordonnances, en tout cas pas de ce type-là de commentaires. Et j'ai un ami qui m'a appelé il y a quelques jours, qui m'a rappelé un deuxième épisode de cette nature que j'avais oublié, qui se passait à Lille, où avec la même ordonnance, la pharmacienne qui m'avait reconnu comme homme de radio était restée absolument médusée par le type de médicaments que je prenais et la maladie que ça impliquait, si vous voulez. Donc, ce sont de petites expériences, je ne veux pas dire de petites agressions, parce que je ne pense pas que ce soit fait pour faire mal, mais vous vous retrouvez effectivement à certains moments face à votre maladie et dans des endroits où vous n'auriez jamais imaginé être mis face à votre maladie.
La honte, la culpabilité, c'est le leitmotiv de ce livre jusqu'à la révélation au grand jour de votre maladie. « Je suis un malade mental », martelez-vous dès la première phrase, comme un retournement du stigmate qui touche les minorités, comme ces gays et lesbiennes qui revendiquaient haut et fort d'être des PD et des gouines, revendiquaient d'être un malade mental, ne plus en faire une insulte, espèce de malade mental.
Oui, Je me suis un peu interrogé, mais pas longtemps, hein, sur ces premiers mots. Je ne voulais pas d'euphémisme. À quoi ça sert d'écrire un livre sur ce dont je souffre, un livre sur la bipolarité, si c'est pour écrire dans les trois premiers mots je suis un patient qui souffre d'un trouble bipolaire. J'aurais pu l'écrire comme ça, mais ça n'est pas vrai. Je suis un malade mental, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le souffre, et c'est comme ça que je le dis à mes proches. Donc, il fallait casser le mur de la honte, il fallait casser le mur de l'euphémisme, il fallait aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, casser le mur de la peur, et ces murs-là, on ne les casse pas en chuchotant. On les casse en disant les choses avec une certaine force, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai ressenti les choses et ça a été libérateur.
De quoi la honte est-elle le nom, la honte que vous avez traînée pendant des années comme un boulet?
C'est, comment dire, on vous invite à une soirée, vous n'y allez pas, vous dites pas pourquoi. La raison est simple, c'est que vous êtes effondré sur votre canapé et que l'idée de voir des gens vous insupporte. Enfin, c'est impossible, c'est une souffrance psychique et une souffrance. Et donc, non, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai bouffé. Non, écoute, une autre fois peut-être. Et vous rendez même pas compte que à chaque fois qu'on vous invite, vous avez ce genre de comportement. Et ça peut être mille petits exemples comme ça de la vie quotidienne où vous préférez cacher et mentir plutôt que dire, écoute. Je suis malade, je suis bipolaire, j'ai des phases dépressives graves, j'ai d'autres phases où je monte très haut en régime et en température. Voilà, ça s'appelle comme ça, accepte-moi comme je suis, et maintenant les choses sont dites. Au lieu de mentir, pourquoi, au nom de quoi, je suis malade, au nom de quoi devrais-je mentir? C'est une question qui, à un moment, devient une question de pure logique. Quelqu'un qui a un cancer ou une hépatite ne ment pas, ne ment pas. Il ne va pas dire « ouais, je suis fatigué, tu comprends, etc. » Non, il peut le dire. Pourquoi moi, je ne peux pas le dire? Donc, j'ai choisi de le dire.
Votre rêve, Nicolas Demorand, en écrivant ce livre, c'est de voir advenir une révolution du regard porté sur ces pathologies, aider les malades à vivre une existence débarrassée de la honte et de la culpabilité. C'est le but du livre.
Oui, c'est le but du livre. Je parle aussi, à un moment, je crois, de révolution de la banalité. J'aimerais contribuer dans ce vaste sujet, parce que le combat n'est pas gagné. J'aimerais que on regarde les gens bipolaires avec un œil banal. J'ai une grippe, j'ai pas pu venir pendant 10 jours au boulot parce que j'avais vraiment 42 fièvres, j'ai eu un Covid mais vraiment hardcore, j'ai pas pu venir, j'ai eu une dépression qui m'a cloué au lit, j'ai pas pu bouger. Voilà, c'est ça la banalité.
Bonjour docteur Marc Masson.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, coordinateur de la clinique du Château de... Vous êtes... C'est quoi votre nouveau titre? Parce que non. C'est un ancien titre que j'ai alors.
Non, donc je travaille, je suis psychiatre libéral en cabinet à Paris et je travaille à l'hôpital américain.
Voilà, donc c'est la nouvelle dénomination. Vous avez co-dirigé un ouvrage scientifique chez Lavoisier, Les troubles bipolaires, et vous êtes rédacteur en chef de la revue L'Encéphale, c'est toujours le cas. Votre regard sur le coming out de Nicolas Demorand?
Ben avant tout, j'ai appris, Nicolas, la publication de votre ouvrage par une de mes patientes qui m'a envoyé quasiment en instantané votre enregistrement en me disant « Docteur Masson, écoutez ça tout de suite, ça m'a bouleversé et vous avez fait un acte d'un courage que je trouve extraordinaire. »
Merci, pardon.
Et en fait, dans l'univers anglo-saxon, on l'a vu tout à l'heure, depuis de nombreuses années, des personnes qui souffrent de troubles mentaux viennent dans les médias, dans les associations de psychiatres, etc., pour apporter leur témoignage, pour lutter contre cette stigmatisation qui, malheureusement, est encore très très présente. Alors le combat, vous l'avez dit, Nicolas, n'est pas gagné, mais vous avez vraiment jeté un pavé, si je puis dire, dans la mare, même si ce livre dont je recommande la lecture à tous, que ce soit pour les psychiatres, hein, tous les psys, et bien sûr les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, leur entourage, parce que vous l'avez, il est courageux, il est bien écrit, il est incisif. Alors effectivement, ce mot « je suis un malade mental » quelque part, ça peut peut-être choquer, mais je crois que vous avez eu raison. Peut-être que tous les patients se diront quand même « moi je ne me considère pas comme un malade mental bon, ». Mais en tout cas, je crois que vous avez bien fait d'utiliser ce terme, parce qu'il faut casser le mur de la honte, le mur de la culpabilité, et notamment dans le monde du travail. Et en ce sens, vous êtes quelque part une icône, Nicolas, puisque, et je crois que cette phrase des pharmaciens, c'est un peu ça, vous incarnez une réussite professionnelle, vous avez une grande notoriété,
oui,
etc.
Oui, c'est lui.
Et, mais comment lui, c'est possible oui. que quelqu'un qui a cette trajectoire professionnelle prenne tel médicament, vous voyez. Donc je pense qu'il y a une côté de stupeur, de sidération par rapport aux clichés, aux représentations qu'on a de la maladie.
Et pendant, les centaines de mails, ce sont des centaines de mails maintenant que j'ai reçus depuis la publication de ce livre, le message sur la vie professionnelle revient très très souvent. Je vais peut-être enfin pouvoir dire, alors je vais y aller doucement, je sais pas comment je vais être accueilli. Mon livre n'est pas sortez tous bipolaires de chez vous et allez parler à vos patrons et vous serez accueillis à bras ouverts, voire avec des larmes aux yeux. C'est pas ça. C'est pas une injonction à aller parler. C'est juste le récit de mon expérience. Mais beaucoup me disent que c'est au travail qu'ils étouffent, en fait.
Bien sûr. Alors c'est vrai qu'à ce stade, quand nos patients nous interrogent, quand ils passent leurs, évidemment, pas seulement les entretiens d'embauche, mais la période d'essai, puis même au-delà, est-ce que je dois parler de ma maladie ? À ce jour, c'est vrai que moi-même, et je pense que la plupart de mes confrères, on encourage à la prudence, parce qu'on a eu trop de témoignages de personnes qui ont été placardisées après avoir révélé leur maladie, parfois plus ou moins volontairement. Mais je crois que votre démarche, elle va permettre de faire bouger les représentations et que petit à petit, justement, comme vous dites, ça va être une démarche progressive, mais en tout cas, c'est une étape vraiment très significative.
Marc Masson, à ce stade de l'émission, qu'est-ce que le trouble bipolaire que l'on appelait auparavant psychose maniaco-dépressive, une dénomination effrayante, inquiétante, et peut-être que le terme maniaco-dépression a contribué à la stigmatisation et à la honte ressentie chez de nombreux malades. Expliquez-nous ce qu'est le trouble bipolaire en quelques mots, on va développer tout au long de cette émission.
Alors c'est une maladie qui se caractérise, Nicolas l'a déjà évoqué, par des alternances de phases pathologiques, hein, c'est-à-dire qu'on a tous une humeur qui varie, par définition l'humeur elle est bipolaire chez tout le monde, mais on pourrait dire que quand on souffre d'un trouble bipolaire, elle est hyper bipolaire ou super bipolaire, et donc on a des phases extrêmement tristes, extrêmement ralenties, apathiques, sur le canapé, où on ne peut plus rien faire, on est comme sidéré, anéanti. Et de manière aléatoire, on peut avoir des phases d'excitation, alors d'excitation tout à fait anormale, où on dort beaucoup moins, voire où on ne dort plus, on a l'idée que ça accélère dans la tête. Ouais. Et donc, il y a différents troubles de forme bipolaire, de troubles bipolaires. Il y a des personnes, et c'est le cas dans ce que décrit Nicolas dans sa propre maladie, où prédomine la dépression, c'est-à-dire que la plupart des épisodes sont dépressifs, et puis on a de temps en temps des phases d'excitation modérée. Et puis d'autres, où c'est l'excitation qui est plus fréquente. Et puis des formes qui sont très actives, des formes moins actives. Et c'est pour ça que parfois, on ne se reconnaît pas toujours dans l'expérience d'un autre patient.
Nicolas Demorand, votre humeur varie entre de longues et profondes phases dépressives et d'autres phases maniaques plus courtes où vous débordez d'énergie, des phases maniaques que vous considérez comme malsaines et qui vous carbonisent le cerveau, comme vous l'écrivez.
C'est ce que vous venez de dire. Par exemple, vous ne dormez pas, mais vous êtes en pleine forme. Insomnie totale, réveil, enfin c'est même pas réveil, vous êtes dans votre lit à attendre qu'il se passe quelque chose, et vous avez une énergie absolument folle. Et si vous voulez, il y a un message contradictoire entre votre cerveau et votre corps. Votre corps est objectivement fatigué, mais c'est votre cerveau qui est en pilotage automatique. Et ça, c'est malsain. Moi, je sens, c'est des métaphores, c'est difficile à décrire. Je sens mon cerveau chauffer, je brûle de la tête et je sais que ça y est, quoi, c'est parti. Alors, concrètement, ça peut donner, par exemple, dans l'écriture de ce livre, j'ai été traversé par une phase maniaque où normalement, pour la matinale, je me lève à 3h30. Là, je me levais à 1h du matin ou 2h du matin et je me mettais devant mon ordinateur et c'était parti pour 8h de travail avec une énergie complètement dingue. Je savais même plus ce que j'écrivais. Et le problème, c'est que le revers de ça, c'est derrière, vous êtes cassé en deux. Par une phase dépressive qui vient remettre tout le monde d'accord. Donc c'est malsain dans le sens où cette énergie-là, elle n'est pas liée à la pratique d'un sport, elle n'est pallier à une bonne humeur extrême. Non, elle est liée à un truc qui se passe dans votre tête et qui fait que vous explosez d'énergie et il faut essayer de vous calmer. Il faut essayer de vous calmer. Sinon ça peut déraper. Ça peut déraper à l'antenne. Ça peut déraper pour être tout à coup pris comme ça. Donc c'est aussi un apprentissage de la modération. Alors que votre cerveau va dans l'autre sens. C'est très bizarre, hein, comme elle a dit, très bizarre.
Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique Quoi de neuf docteur vers 11h20?
Eh bien aujourd'hui j'ai réfléchi sur la place de ce qu'on appelle les défauts, nos défauts que nous avons tous dans la société. En fait, quelle place occupe-t-il et pourquoi nomme-t-on ça des défauts?
France Inter.
Là j'ai ton ordonnance, tu vois, t'es bipolaire il m'a dit.
Grand bien vous fasse.
T'as remarqué que tu ris, tu pleures, puis tu ris, tu pleures, puis tu re-ris, puis des fois tu re-pleures. Ça date de quand? Tu te rappelles?
Oh. Ah bah grosso modo, si je calcule bien, c'est depuis que t'es là, je crois.
Oh. Ali Rebbi.
Quel est la vie d'un bipolaire? C'est notre thème ce matin en compagnie de Nicolas Demorand et du psychiatre Marc Masson. On peut rire de la bipolarité,
j'aimerais.
Nicolas Demorand.
Ah j'aimerais, ce serait le stade ultime de la normalité. Au lieu d'en avoir peur, au lieu de se cacher, au lieu de pas savoir comment parler à la personne ex-maniaco-dépressive, désormais bipolaire, si on pouvait en rire, ce serait bien.
Et vous me disiez, hors antenne, que vous aimiez bien ce terme de maniaco-dépression.
Bah, c'est-à-dire, s'il faut nommer les choses, je trouve que psychose maniaco-dépressive a le mérite d'être très très clair, mais on fera avec bipolaire. Hein.
Beaucoup de messages qui vous sont adressés, Nicolas. Chantal qui nous dit « Enfin, grâce à Nicolas, mes amis comprennent que c'est une vraie maladie grave, invalidante et pas un truc à la mode. Diagnostiqué bipolaire il y a un mois, nous dit Elsa, je voulais dire merci à Nicolas Demorand. Je suis entré à l'hôpital le jour de sa déclaration à la radio et son témoignage m'a fait le plus grand bien. Il est effectivement temps de ne plus avoir honte. » Mmh. Chantal, Elsa, vous remercie.
Moi, ça me bouleverse. J'ai reçu des centaines de mails et de messages. Il y a un mot en commun, et je ne dis pas ça par forfanterie, c'est merci. Et ce merci-là, je l'analyse comme une bouffée d'air, enfin, d'être entendu, d'être connu, d'être peut-être représenté, de pouvoir lire quelque chose ou entendre quelque chose qui vient casser la solitude. Et ces merci-là me font un bien fou, mais un bien fou.
Une interrogation de Ludovic. Comment Nicolas Demorand arrive-t-il à gérer la pression quotidienne du direct? Il me semble qu'il n'est jamais absent de la matinale. Comment réussit-il cette prouesse?
Alors, quand je suis absent, c'est pour une sciatique, ce qui est tout à fait différent, mais qui fait très mal. La radio me tient.
Vous dites que c'est votre exosquelette.
Oui, c'est la radio me tient. J'ai une vie extraordinairement rythmée, rythmée de manière extraordinairement précise. 3h30 le matin, ensuite l'arrivée ici, je fais un certain nombre de choses. Le direct, vous connaissez ça, Ali, c'est minuté. Ensuite, je rentre à la maison, je dors un peu si je ne suis pas dans une phase maniaque qui m'interdit de dormir. Puis je me mets à préparer l'émission du lendemain. Puis arrive le moment de se coucher. Ma vie est rythmée. Et donc, la radio, est un exosquelette. La radio me tient. Et elle me permet d'avancer avec cette maladie.
Docteur Marc Masson, psychiatre.
Oui, effectivement, je pense que d'ailleurs c'est un des conseils qu'on donne à nos patients dans les différents conseils qu'on appelle d'hygiène de vie, c'est-à-dire comment faire dans l'organisation de ma vie pour lutter de manière la plus efficace possible contre la maladie. Eh bien, la question des rythmes est centrale, d'avoir la vie la plus régulière possible. Alors on pourrait dire, comme Nicolas, se lever à 3h du mat tous les jours, ok, c'est tôt, mais comme c'est tous les jours, cette rythmicité, cette régularité, elle contient, alors imparfaitement, mais en tout cas, c'est une sorte de contrefort pour lutter contre la maladie.
Écoutons un extrait de la série américaine Homeland.
Saul, tu es là.
Comment allez-vous, Carrie?
Ça y est, c'est l'heure, on y va.
On va où?
Travailler. Il faut y aller, on doit foncer tout de suite à l'anglais. Il faut qu'ils comprennent, Saul. Tous les mouvements de Nazir en vert suivent une période jaune très calme et précèdent la période violette. C'est méthodique, monstrueux, important. Et surtout, ça en dit...
D'accord, je vais augmenter les anxiolytiques, ça vous apaisera.
J'ai pas besoin d'être apaisée. Dis-le lui. Dis-le-lui, s'il te plaît.
Carrie, je te reconnais pas, c'est pas toi.
Bien sûr que si, c'est moi.
Non, j'arrive pas à te suivre. Tu parles beaucoup trop vite. Tes pensées se bousculent. Toutes ces idées que je comprends pas.
Nicolas Demorand, que vous inspire cet extrait de la série Homeland ? Est-ce que vous identifiez au personnage de Carrie Mathison qui souffre de bipolarité ?
C'est une bonne représentation, cette série de la bipolarité. On la voit très souvent dans des phases maniaques. Elle a beaucoup de mal, parce qu'elle est très créative dans les phases maniaques, elle a beaucoup de mal à prendre du lithium ou des anxiolytiques qui la feraient redescendre. Et du coup, elle pense qu'elle perdrait le rapport tendu qu'elle a au travail, et ça va jusqu'aux électrochocs dans je ne sais plus quelle saison. Et donc je trouve que c'est une maladie qui est assez peu représentée. Faudrait réfléchir à la raison pour laquelle elle est assez peu représentée, mais celle-là la représente bien.
Docteur Marc Masson.
Alors c'est vrai que dans ces phases d'excitation, alors il y a la phase d'excitation maniaque qui est la plus sévère, où on ne dort plus du tout, où là le plus souvent on est hospitalisé, et puis il y a l'hypomanie, la petite excitation maniaque, qui est déjà pathologique bien sûr, mais plus modérée, et très souvent dans ce cas-là on n'a pas conscience d'être malade. D'ailleurs c'est pour ça que l'actrice dit mais finalement, mais non, je suis comme avant, je me sens très bien, etc. Par contre là, entourage perçoit qu'effectivement il y a un décalage par rapport au fonctionnement habituel de la personne.
Alors Nicolas Demorand, avant de connaître votre bipolarité, je me disais que vous étiez peut-être cyclotimique, on disait lunatique par le passé. À partir de quel moment, Marc Masson, parle-t-on de dérèglement de l'humeur ? On a tous des humeurs changeantes au cours d'une même journée, d'un jour à l'autre, mais à partir de quel moment faut-il s'inquiéter ? Quels sont les symptômes annonciateurs d'une bipolarité ?
Alors, la cyclothymie, c'est une sorte de tempérament affectif, il y en a plusieurs, il y a des gens qui sont plutôt maussades, qui ont un tempérament dépressif, d'autres qui sont plus cyclothymiques, donc qui ont des alternances, mais qui restent dans des proportions, si je puis dire, relativement acceptables, et leur degré de souffrance personnelle n'est pas aussi important que quand la maladie bipolaire est déclarée, où là, dans les phases dépressives, il suffit de lire le livre de Nicolas pour s'en rendre compte, le patient souffre, il est anéanti, c'est pas simplement une petite variation d'humeur... comme la météorologie qui peut varier d'un jour sur l'autre. Non, c'est un état de... on se sent malade, on se sent pas bien. Et de même, dans les phases d'excitation, c'est de l'excitation pathologique où on peut se mettre en danger, on peut avoir des comportements inappropriés. Et donc, le plus souvent, dans les phases d'excitation très sévères, comme je le disais, il faudra être hospitalisé.
Une question difficile à laquelle vous n'accordez pas beaucoup d'importance, Nicolas Demorand. À quand remonte votre bipolarité ?
Très difficile d'y répondre. Très difficile. Moi, je ne suis pas entré... dans le chemin de la maladie avec un carnet de notes pour documenter mes états d'âme. C'est quelque chose, vous n'allez pas bien, vous ne savez pas pourquoi, vous prenez des médicaments, ils ne marchent pas, et c'est une grande zone de flou. J'aimerais pouvoir répondre à cette question.
Est-ce que ça remonte au début des années 90,
peut-être.
À l'époque où vous êtes en classe prépa ?
Peut-être.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
En 90-91, c'est la première fois que je prends du Prozac, donc un antidépresseur, et... ça, je m'en souviens parfaitement bien, puisque c'était l'époque où les journaux faisaient leur une sur la pilule du bonheur, etc. Et donc, je me souviens de cette première date-là. Est-ce la première date ? Je sais pas. Il y en a d'autres qui sont possibles, mais c'est très difficile de se repérer dans le temps, parce que cette maladie-là brouille les repères. Vous explose le cerveau, et si vous ne faites pas le travail de prendre des notes, mais qui a envie de prendre des notes quand on est effondré sur un canapé ? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Qui a envie de le faire ? Voilà, ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a une période qui va de... peut-être 1990-1991, j'ai oublié la date, une tentative de suicide. Quel est mon chemin dans la maladie.
Ce que vous racontez très bien dans ce livre, c'est l'errance médicale. Au début, les psychiatres pensent qu'il s'agit d'une dépression, on vous prescrit des antidépresseurs, et ce n'est pas recommandé quand on souffre de bipolarité. Et on ne vous diagnostique cette bipolarité qu'il y a une dizaine d'années seulement ?
Oui, c'est ça. J'ai été traité aux antidépresseurs. Parce que, bon, c'est le diagnostic, je parle sous votre contrôle, hein, est compliqué. Surtout quand vous entrez dans la bipolarité par la dépression. Vous allez voir un médecin, vous dites « je suis déprimé, dépressif, on vous donne des antidépresseurs ». Tout ça est logique. Vient un moment où les antidépresseurs ne marchent pas, donc on les augmente. Donc, paf, vous êtes sorti de la dépression et vous remontez au ciel dans une phase maniaque. Et paf, vous effondrez à nouveau. Donc, on vous redonne des antidépresseurs et vous yoyotez comme ça avec brutalité. Et la souffrance ne diminue pas, la souffrance augmente. Vous vous dites, je prends des médicaments, je fais ce qu'on me dit de faire, je parle s'il faut parler à des médecins, puisqu'il faut parler à des médecins. Je fais tout ce qu'on me demande de faire.
Vous faites tout bien dans le livre.
Non mais tout bien, non mais
vous
allez
même en thalasso.
Non mais je dis que je suis un bon petit soldat de l'ordonnance. Je fais tout ça et à un moment la souffrance est telle. Parce que la souffrance psychique est une souffrance physique, vous avez mal partout, vous faites tout ce qu'il faut, à un moment, vous avez envie de vous foutre en l'air pour que ça cesse. Non pas parce que vous n'avez plus envie de vivre, mais parce que vous voulez que la souffrance cesse. C'est deux choses très différentes. Et moi, je me suis retrouvé à ce moment où je n'en pouvais plus de souffrir. Je n'en pouvais plus.
Docteur Marc Masson, sur ce retard diagnostique qui frappe de nombreux malades.
Oui, alors toutes les études le montrent, hein, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, le délai entre le premier épisode caractérisé, hein, donc pour vous Nicolas, vous l'évoquez effectivement, probablement votre dépression quand vous étiez en classe préparatoire, et le moment où un diagnostic est posé, en moyenne il est de 8 à 9 ans, ce qui est énorme bien sûr.
C'est énorme.
Hein, tout à fait énorme. Alors pourquoi ? Alors, bon, déjà un, parce que dans 60% des cas, et c'est votre cas Nicolas, on commence par une phase dépressive, donc effectivement c'est une dépression caractérisée, bon, donc voilà.
Mais est-ce qu'elle est différente, dépression, d'une dépression classique ?
Déjà la première différence, c'est qu'elle touche un sujet jeune, hein, puisque, comme dans votre cas Nicolas, la plupart du temps, le trouble bipolaire commence entre 18 et 25 ans, il peut commencer après, moins souvent, il peut commencer plus tôt, également moins souvent, mais le gros du pic de début, c'est entre 18 et 25 ans. Donc déjà ça doit attirer l'attention. Ensuite, on peut rechercher des antécédents familiaux. Il s'agit pas quand on les connaît, parce qu'on ne les connaît pas toujours. Ce n'est pas une maladie génétique, mais c'est une maladie où il y a des facteurs génétiques qui rentrent en ligne de compte associés à d'autres facteurs et qui vont créer une vulnérabilité pour cette maladie. On va rechercher des caractéristiques de la dépression. Par exemple, une dépression telle que Nicolas l'écrit, quand on est ralenti sur son canapé, qu'on manque d'une énergie totale, qu'on somnole toute la journée, ça c'est un signe assez caractéristique. Il ne suffit pas de faire le diagnostic, mais ça met la puce à l'oreille. Donc vous voyez, c'est un faisceau d'arguments qui va nous faire évoquer un trouble bipolaire.
Vous pouvez rester prostré des jours et des semaines dans un canapé, ou dévorer des quantités de nourriture au-delà du raisonnable. Voilà quelques signes de cette dépression caractéristique du trouble bipolaire.
Oui, et puis... ne plus pouvoir faire des choses que j'aime faire, ne plus pouvoir lire, ne plus pouvoir regarder une série télé, ne plus être capable d'aller prendre une douche, ne plus être capable de se couper les ongles, c'est quand même une déchéance physique et psychique qui est monstrueuse.
Mais vous avez conscience de cette déchéance physique ?
Oui, mais je comment dire c'est pas parce que j'en ai conscience que je me lève bien pour sûr. Aller à la salle de bain me récurer. C'est un truc de plus. Ouais. Et en plus, t'es incapable de prendre une douche. Et en plus, t'es incapable de bouger du truc. Et en plus, tu peux même pas allumer ta télé pour regarder une série. Et en plus, lire un bouquin te donne envie de vomir. Donc, on a une hyper-conscience des symptômes et une absolue impossibilité de les gérer. Voilà. Et les médicaments ne servent à rien. Vous avez mal partout. partout, vous êtes traversé de douleurs physiques absolument insupportables, et vous pouvez prendre des anxiolytiques, ils ne servent pas, et vous êtes un bloc de souffrance.
Comment on explique ces douleurs physiques, hein, Nicolas Demorand, il revient abondamment dans son livre. Je n'ai jamais connu ça à titre personnel, donc dites-moi d'où ça vient, c'est quoi ces douleurs physiques qui sont en lien avec ces phases dépressives. Racontez-nous, ouais. Marc Masson.
Alors, effectivement, on a observé depuis assez longtemps que dans 30 à 40% des cas, dans une phase dépressive, alors on a déjà la douleur psychique, bien sûr, qu'on appelait autrefois la douleur morale, qui nous accable, qui nous terrasse et qui peut générer des idées suicidaires, des idées de mort pour que ça s'arrête. Ouais. Alors, c'est pas la bonne solution, mais c'est une idée qui nous vient à l'esprit quand on est dans cet état. Et puis, c'est comme une caisse de résonance douloureuse. C'est comme si notre cerveau était attentif à toutes les micro-douleurs de notre corps et que ça devenait, comme avec un micro, un ampli, quelque chose qui résonne en nous. Et donc, toutes nos petites douleurs deviennent des grandes douleurs physiques. Alors, on a pensé à un moment que les réseaux neuronaux dans le cerveau entre la douleur physique et la douleur psychique étaient les mêmes. En fait, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette collusion entre douleur physique, douleur psychique quand on est dans une phase dépressive.
Alors, à quoi ressemble une phase maniaque chez vous, Nicolas ? C'est une frénésie d'achat, c'est claquer en fric monstrueux, oui. T-shirt, bonnet, écharpe, chaussures. Vous devenez très amis, vous l'expliquez dans votre livre, avec les livreurs de chez DHL, UPS, Chronopost, FedEx ou Colissimo.
Non, c'est vrai.
Vous avez fait des heureux autour de vous en dépensant autant d'argent parce que vous entassez les colis que vous n'ouvrez même pas et que vous offrez autour de vous.
Mais c'est un truc fou. C'est un truc fou, c'est-à-dire que...
Et vous avez honte de dépenser autant de fric.
J'ai honte de ce fric dépensé, mais le cerveau dans sa phase maniaque a besoin de consommer, en fait, mais consommer de l'énergie. Ça peut être consommer de l'alcool, ça peut être consommer des drogues. Il a besoin de consommer de la bouffe. Bref, il y a des consommations, et chez moi, c'était des consommations complètement ridicules et pathétiques, parce que, effectivement, j'avais un coin dans mon salon où des montagnes de boîtes fermées qu'on m'avait livrées étaient là, comme dans un entrepôt de logistique.
En tout cas, vous avez fait des heureux.
Oui, j'ai fait des heureux puisque j'ai donné à mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes amis. J'ai habillé tout le monde pour des générations. Mais j'ai acheté des clous, des ampoules, des prises multiples. Hier, je changeais, pour ne rien vous cacher, une ampoule. Et j'ai ouvert une boîte et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une ampoule LED, il faut 10 ans pour la cramer. Il y en avait, mais des masses à l'intérieur. Et donc voilà, c'est...
Plus sérieusement, pour vous, dépenser, c'est un remède et un mal. Et je vous cite, l'anxiolytique censé éteindre l'incendie qui l'entretient.
Oui, c'est je sais bien que je déconne. Je sais bien que j'ai pas besoin de ce que j'achète. Mais j'arrive pas à m'en empêcher parce que ça me calme le temps de le faire.
Alors c'est très pertinent, Nicolas, j'allais dire comme toujours quand on a lu votre livre, de faire le lien entre ces dépenses compulsives, ces achats compulsifs et les addictions, hein, puisque effectivement, malheureusement, souvent, quand on souffre d'un trouble bipolaire, dans une fois sur deux, on a des problèmes d'addiction associés. Et le lien, c'est que dans les dérèglements sur le plan biologique, il n'y a pas que cet aspect, mais sur le plan biologique, il y a un emballement de notre dopamine, des circuits dopaminergiques dans notre cerveau, et donc ça nous pousse à faire des achats compulsifs, à nourrir vers les addictions, etc.
Et je rappelle, Marc Masson, que vous avez écrit le livre de référence consacré à la bipolarité. Alors, il y a une phrase du peintre Gérard Garouste qui vous a marqué, Nicolas Demorand, « Être heureux est dangereux ». Phrase terrible que vous avez bien assimilée. Expliquez-nous pourquoi vous vous méfiez de ces moments où vous allez bien, trop bien.
C'est mon médecin qui me l'a donné, et j'en ai fait l'adage de Garouste, grand bipolaire, grand artiste. C'est quelque chose qu'un cerveau normalement constitué ne peut pas comprendre. Quand vous êtes heureux, vous profitez du bonheur et vous n'êtes pas en train de vous dire c'est l'acte 1 d'une débâcle dépressive. Et donc, méfie-toi quand ça va bien, méfie-toi. Et vous dites aussi, je suis un bipolaire bien soigné, mais bien soigné, est-ce que bien soigné, c'est pas l'étape 1 du bonheur? Et si c'est l'étape 1 du bonheur, ça veut dire que ça va s'inverser. Donc c'est une phrase terrible. Combien de fois je pensais être heureux d'être en vacances? Mais non, je n'étais pas heureux d'être en vacances. J'étais en train de partir en sucette. Donc c'est une phrase terrible, mais qui décrit dans son économie la justesse de la bascule bipolaire.
Il est 10h43, l'heure de retrouver Quoi de neuf, docteur, d'Adrien Chatrier.
Ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Docteur Adrien Chaboch.
Alors Olivier, je le rencontre il y a 3 ans. À 34 ans, il vient tous les 5 mois faire un point sur sa santé. Alors j'apprends à le connaître, brillant, drôle, intuitif. Tout semble aller dans sa vie personnelle et professionnelle. En tout cas sur le papier. Car il me questionne. Docteur, je comprends pas. Parfois, je suis à fond et tout me semble évident. Je déborde d'idées et puis d'un jour à l'autre, je m'éteins, je doute de tout, je me déteste. Alors comme on l'a dit, tout le monde change d'humeur. Même au cours d'une journée. Notre océan émotionnel n'est jamais lisse, et s'il l'était, ce serait même signe d'une maladie. Mais lorsque vous passez le matin d'un état créatif pour vous mettre à pleurer l'après-midi, c'est un changement anormal. Il nous a fallu du temps et un échange régulier avec un confrère psychiatre pour poser le bon mot. Olivier est cyclothymique, un trouble de l'humeur proche de la bipolarité, mais bien à part. La cyclothymie, c'est un petit peu comme une mer intérieure qui bouge tout le temps, jamais en tempête, jamais tranquille non plus. Elle passe souvent sous les radars. Pas de dépression majeure, pas de manie. Mais pour Olivier, le plus dur, me dit-il, ce n'est pas l'oscillation. C'est le jugement des autres de ses humeurs. Et c'est ça qui m'a posé question. Car ça nous interroge sur la façon dont notre société considère les humeurs. T'es trop ci, t'es trop ça. Comme si tout devait être lisse alors qu'on prône la différence à tout bout de champ. Et surtout, t'es jamais assez. Dans notre société de la performance, le défaut est une anomalie à corriger. On a hérité d'une vision stoïcienne de la vertu. Il faudrait dominer ses failles, neutraliser ses passions, tendre vers la raison pure. Mais cette quête de maîtrise, d'effacement de tout ce qui déborderait, fabrique surtout des êtres déconnectés d'eux-mêmes. Alors, et si nos défauts étaient finalement une sorte d'autre facette de nos qualités? La méfiance, la colère, la lenteur, la hâte sont des expressions de nos personnalités, de nos histoires, des épreuves que nous avons traversées pour aussi nous construire. Ce sont toutes des traits normaux qui ont leur place. La différence, bien sûr, se situe dans la souffrance. Si ces traits deviennent destructeurs, alors pour les soigner, on doit avant tout s'y intéresser, les accepter. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que le cerveau peut modifier ses circuits de pensée et de comportement, mais pas sous la contrainte ou l'autocritique violente, car au contraire, ça les renforce. Le changement passe par la bienveillance envers soi. Si les médicaments vont aider à lisser ces symptômes lorsqu'il le faut, c'est par la psychologie humaniste, les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales ou la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, mais surtout, au-delà, c'est apprendre de soi, se connaître, pour que des changements peuvent se faire en apprenant à les comprendre, à en réguler les effets excessifs et surtout à les mettre au service d'un projet de vie. Alors, j'aimerais proposer un autre modèle, celui du kintsugi japonais. Ah. Cet art ancestral qui consiste à réparer les objets cassés avec de la poudre d'or. Les fissures ne sont pas masquées, elles sont mises en valeur. Elles racontent l'histoire de l'objet, mais qui peut aussi changer de forme. Et si on faisait pareil avec nous-mêmes? Et si nos fissures n'étaient pas à cacher, mais à souligner d'or? Car ce n'est pas en polissant nos angles qu'on devient plus humain, mais c'est en les habitant.
Nicolas Demorand.
Ah, j'achète. Mais oui, mais c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Si on pouvait... Si nos fractures pouvaient être des... comment dire, des dessins, en fait, ce serait sublime. On n'y est pas, hein, mais je prends, moi.
Tous les épisodes de Quoi de neuf, docteur sublime. D'Adrien Chaboch sur l'appli Radio France, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux.
Ali Rebéi. grand bien vous fasse.
Quelle est la vie d'un bipolaire ? C'est notre thème ce matin en compagnie de Nicolas Demorand qui publie Intérieur Nuit et du psychiatre Marc Masson. Alors vous avez connu une errance médicale, on l'a dit, vous avez rencontré des psychiatres, des psychanalystes, des pages très très drôles sur deux psychanalystes que vous croisez dans ce livre, La femme au carlin et le génie décoiffé. Mmh. Bon, on ne dit pas plus.
Oui, le lecteur lira.
Se fera son propre avis. Voilà. Un jour, vous tombez quand même sur le bon psychiatre et vous découvrez avec lui des médicaments qui régulent vraiment l'humeur.
Oui. Un bon psychiatre, c'est quelqu'un qui a un coup d'œil simple. Mmh. Vous êtes dépressif depuis plus de 10 ans. Il y a des médicaments pour soigner ça. Si vous êtes encore dépressif, c'est que ce ne sont pas les bons. On va les trouver ensemble. Voilà, ça, c'était à Sainte-Anne. Une page se tournait. Il s'appelait Jean-Pierre Ollier.
Il faut lui rendre hommage. Il est décédé il y a 2-3 ans.
Voilà, et une page se tournait. Et c'était pour moi le début... Le début, enfin, je revivais enfin. Et puis ensuite, il a fallu établir un diagnostic, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là. Et le diagnostic de bipolarité a été posé. Et une fois qu'il a été posé, on a pu regarder très sérieusement la question des médicaments. Et je dis « on a pu ». Parce que c'est une relation avec un psychiatre qui est une relation longue, une relation intense, une relation intellectuellement féconde. Vous progressez vous-même dans votre connaissance des médicaments, dans votre connaissance de la maladie. Et donc, voilà, ensuite, tout peut se gérer. Et ça fait plus de 8 ans qu'on est ensemble.
Hommage donc au docteur Jean-Pierre Ollier. Quels sont les traitements les plus courants, docteur Marc Masson, même si on comprend en écoutant Nicolas Demorand, que c'est du sur-mesure, c'est de la haute couture médicamenteuse.
Oui, tout à fait. On parle aujourd'hui de traitement personnalisé parce que, bon, on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs formes de troubles bipolaires. Hein, il y a des formes où les dépressions prédominent, d'autres où il y a une alternance égale entre excitation et dépression, et d'autres où il y a plus d'excitation, et des formes plus ou moins actives. Donc, partant de là, on comprend bien que la stratégie thérapeutique, le traitement médicamenteux va varier d'un sujet à l'autre. Mais enfin, il y a quand même des grandes règles. La première, c'est la mise en place d'un stabilisateur de l'humeur, hein, ou thymorégulateur, le terme un peu plus ancien. Donc ces stabilisateurs, le chef de file, en soi ça n'est pas un médicament au départ puisque c'est un cation, c'est le lithium. Donc les sels de lithium, qu'on l'on prescrit depuis 70 ans environ pour traiter cette maladie, restent le traitement de référence. Il y a aujourd'hui d'autres molécules qui sont proposées, qui certains sont des antiépileptiques, d'autres appartiennent à des neuroleptiques de nouvelle génération qu'on appelle antipsychotiques, mais ça c'est le traitement de base, c'est d'abord le ou les stabilisateurs, parce que souvent ils sont associés. Mmh.
Nicolas Demorand, vous prenez des médicaments, mais vous suivez également une TCC, une thérapie comportementale et cognitive. Alors au début...
Très important.
Au début, vous regardez ça avec beaucoup de circonspection, et puis vous tombez sur une formidable psychothérapeute.
Oui, elle est absolument géniale, et elle m'a appris à vivre avec la maladie, parce que une fois que le psychiatre a fait les grands réglages, une fois qu'on a compris les dynamiques médicamenteuses, les dynamiques de la maladie, la crise dépressive, il faut la vivre, il faut la traverser, il faut éventuellement la sentir venir. Voilà, il y a des choses extraordinairement concrètes, mais d'une importance cruciale qu'on apprend qu'en thérapie comportementale et cognitive. Et j'ai énormément appris. Elle m'a donné ce qu'elle appelle le graphe de l'humeur, -5, +5, -5. +5, vous êtes en phase maniaque dans le ciel, -5 en phase dépressive sous le sol. Et bon, il y a une gradation au milieu. Est-ce que entre +2 et -2, vous n'êtes pas dans un état globalement normal, là où vous étiez en train de vous inquiéter parce que vous sentiez un peu down ou un peu up. Voilà, ce sont des outils qu'on vous donne, des outils pour être autonome face à la maladie. Formidable.
Bonjour docteur Guillaume Font.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, docteur en biologie cellulaire et moléculaire. Vous venez de publier « Bien nourrir son cerveau » aux éditions Edith Jacob. Existe-t-il, docteur Guillaume Font, et je sais que vous avez mené des recherches en ce sens, un lien entre le microbiote intestinal et la bipolarité? Quels sont les liens avérés par la recherche scientifique, docteur Guillaume Font?
Oui, je tenais à remercier moi aussi Nicolas, parce que tout comme le docteur Masson, j'ai des dizaines de témoignages de personnes bipolaires qui disent merci. Donc cet ouvrage est vraiment majeur actuellement dans la déstigmatisation du trouble bipolaire. Et effectivement, il y a des nouvelles études qui montrent qu'il y a un lien entre l'axe intestin-cerveau et le trouble bipolaire. C'est pas le seul trouble d'ailleurs, puisque la plupart des données sont dans la dépression non bipolaire. Mais on sait maintenant que chez les personnes bipolaires, y compris avant le démarrage des médicaments, parce que les médicaments vont avoir une influence sur le microbiote, ce paquet de bactéries qu'on a dans l'intestin, on trouve des différences entre les bactéries des personnes bipolaires et des personnes non bipolaires. On trouve des différences de comportement alimentaire aussi. Nicolas a évoqué à un moment donné sur des appétences au sucre et aux produits ultra transformés très importantes qui vont conduire à des troubles métaboliques qui sont beaucoup plus fréquents dans le trouble bipolaire de l'humeur. Et maintenant, on a aussi des données sur la nutrition, en fait, l'efficacité de nutriments concentrés comme les oméga-3. On a deux essais contrôlés randomisés. Ils apparaissent maintenant dans les recommandations de la dernière méta-analyse du Lancet dans les traitements efficaces dans la dépression bipolaire. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut remplacer les médicaments, hein, c'est toujours des études adjonction aux médicaments existants. Mais donc on a des données d'efficacité également sur un acide aminé qui s'appelle la N-acétylcystéine, sur la coenzyme Q10 et sur les probiotiques, les fameux probiotiques qui permettent de rééquilibrer le microbiote intestinal.
C'est-à-dire qu'en complément d'un traitement médicamenteux, d'une psychothérapie, on peut adjoindre ces compléments alimentaires, donc je les cite, oméga 3, N-acétylcystéine ou coenzyme Q10, et donc prendre soin plus globalement de son microbiote intestinal en adoptant un régime alimentaire particulier ?
Oui, en fait, il a été proposé par certains chercheurs qu'une partie des troubles bipolaires, en fait, parce que c'est encore hétérogène, hein, on a parlé des facteurs génétiques qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais qu'on pourrait proposer qu'une partie des troubles bipolaires soit rebaptisée en syndrome métabolique, en fait, puisque donc il y a des personnes qui vont prendre beaucoup de poids et ça va participer à ce ralentissement, au fait de ne pas pouvoir se lever du canapé. Et il y a des études sur les mitochondries, en fait, c'est les petites usines énergétiques des cellules qui montrent des dysfonctionnements, en fait, dans le métabolisme énergétique des personnes qui ont des troubles bipolaires. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer l'efficacité de certains des nutriments, en fait, sur les troubles bipolaires. Donc, on en est vraiment aux prémices, hein, des données scientifiques. Mais comme c'est des interventions qui sont très bien tolérées, en fait, et qui peuvent être facilement ajoutées aux médicaments en place, ça peut être vraiment très utile, très important pour améliorer le pronostic de la maladie.
Donc, docteur Guillaume Font, il vaut mieux abandonner l'alimentation ultra-transformée et se tourner vers une alimentation de type méditerranéenne, pour le dire vite.
Exactement. En fait, il a été montré que les personnes bipolaires consommaient moins de fruits, moins de légumes que les personnes qui n'ont pas de troubles bipolaires, et qu'à l'inverse, instaurer une alimentation non transformée, riche en divers végétaux, en légumes, en fruits, en oléagineux, pouvait améliorer les symptômes, surtout de dépression de la bipolarité.
Merci beaucoup, docteur Guillaume Font, pour ces précisions. Nicolas Demorand, comment allez-vous 3 semaines après avoir révélé être malade mental ?
Ça va, Ali. Et normalement, vous savez... Ça va, ouais, ça va. C'est l'échange le plus banal qui soit. Pour moi, c'est le plus bel échange possible. Ça va, ça va. Je suis pas heureux, je suis pas fou, je suis pas. Non, ça va, ça va. Et vraiment, je redécouvre cette sensation-là d'aller bien que j'avais pas éprouvée depuis tellement longtemps, tellement longtemps.
Merci beaucoup, Nicolas Demorand. Intérieur Nuit, c'est publié aux Arènes. Merci beaucoup, docteur Marc Masson. Je renvoie à votre livre essentiel consacré aux troubles bipolaires, publié chez...
Alors, il y a le Que sais-je, publié au PUF. Et puis, il y a Les troubles bipolaires, qui est un ouvrage coordonné avec 3 autres collègues, qui est publié aux éditions Elsevier.
Et c'est vrai que le Que sais-je est vraiment formidable.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.